Voilà. Donc, ce cours est notre dernier cours. Et à partir de fin janvier, vous serez avec, à partir de début janvier, excusez-moi, vous serez avec Frère Isaiah pour parler des sacrements. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernier cours sur l'Église. J'aimerais qu'on en profite pour échanger le plus possible. Donc, j'ai reçu des questions. J'ai déjà discuté. Et ce que j'aimerais, c'est quand même qu'il y ait un véritable échange entre nous et qu'on ait, que vous parliez un peu. Voilà. Alors, est-ce que vous vous lancez sur des questions ou je commence par une ou deux que j'ai reçues par lettre? Ça ne m'occupera pas 2 heures, hein, celles que j'ai reçues.
Vous pouvez peut-être commencer.
Voilà, j'ai commencé. Alors, je vais commencer par une question. En voyant loin, la synodalité pourrait-elle amener à concevoir une Église catholique plus fédérale, à l'instar du protestantisme, où chaque groupe dans l'Église se différencie dans ses dogmes, ses pratiques et son organisation? Car comment concilier, on le vit dès à présent, des obédiences qui semblent peu compatibles?
Alors, je suis à la source de cette question. Hein.
Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par celle-là, c'est que j'étais sûre que c'était quelqu'un de ce groupe-ci. Alors, je ne sais pas si le mot fédéral est celui que j'aurais adopté. Par contre, synodal est certainement plus juste théologiquement, et c'est d'ailleurs le mot qu'utilisent les églises protestantes,
Continuez. Voilà.
qui se considèrent comme synodales. La question de d'église
On n'a pas
peuvent se différencier. Je ne sais pas, vous dites. Chaque groupe dans l'Église se différencie dans ses dogmes, ses pratiques et son organisation. Alors là, j'ai plusieurs choses. Les dogmes, on a accumulé en 2 millénaires beaucoup de dogmes, hein, accumulés. Le pape Jean XXIII parlait de hiérarchie. Hiérarchie des vérités, tous les dogmes ne sont pas équivalents, n'ont pas la même importance. Donc, typiquement, je pense que si Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu, vrai homme, bien, c'est incompatible avec le christianisme. Donc, si on veut être Église, il faut qu'on garde Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est fait homme, est mort, est ressuscité et nous sauve. Après ça, dans les dogmes, il y a des dogmes bien moins importants, comme faut-il vraiment qu'il y ait 7 sacrements? Vous allez voir dans le cours de la semaine prochaine comment ceci s'est élaboré. Est-ce que c'est peut-être de la contingence historique? Donc, on peut tout à fait imaginer d'avoir des nuances au niveau des dogmes hiérarchiquement peu importants. la question, par exemple, de l'état de Marie après la naissance virginale de Jésus ne me semble pas être un dogme central. Je ne sais d'ailleurs même pas si c'est un dogme, la virginité perpétuelle après la naissance de Jésus. Mais en tout cas, ça ne change rien à notre foi de Jésus engendré, fils du Père, et engendré par l'Esprit. D'un autre côté, donc, ce que je vous disais, des dogmes comme celui de la Trinité, de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, sont le cœur même du christianisme, donc c'est ce qui nous réunit tous. Au sein même de l'Église catholique, on a des pratiques et des organisations radicalement différentes avec les églises orientales. Puisque, par exemple, ces églises, pour un nombre important, pour plusieurs d'entre elles, ont un clergé marié, ce qui n'est pas du tout la discipline de l'Église latine, ça n'empêche absolument pas d'être en communion, et vous pourriez parfaitement vous retrouver un jour avec un prêtre marié célébrant, si c'était un prêtre oriental invité dans une de vos paroisses, puisqu'il y a pleine communion avec l'Église latine et qu'il y a des disciplines, des organisations ecclésiales assez différentes. La question qu'on peut quand même se poser, si ces églises orientales, pendant très longtemps, ont été circonscrites à des zones géographiques. Les Maronites au Liban, les Syro-Malabar en Inde du Sud, les Coptes en Égypte et en Éthiopie. Et on a vu un petit peu ça comme des églises locales un petit peu particulières. Depuis maintenant un bon moment, plusieurs décennies, un gros demi-siècle au minimum, se pose la question de la cohabitation d'églises catholiques en communion avec Rome, de rites différents sur le même territoire. À Paris, vous avez un diocèse maronite dont la cathédrale est rue d'Ulm, et vous avez des Assyriens, des chrétiens assyriens, qui ont leur église principale en France à Sarcelles, en banlieue parisienne. Vous avez également des chrétiens syro-malabar ou des chrétiens éthiopiens, mais qui ne forment pas diocèse, contrairement aux maronites. La question de savoir s'il peut y avoir au sein d'un même espace géographique ces différentes disciplines dans l'Église romaine est très discutée. Au Concile de Nicée, donc en 325, le canon numéro 8 a décrété qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul évêque par ville. Donc, normalement, à Paris, il ne devrait y avoir qu'un seul évêque, qu'un seul siège épiscopal. Les évêques auxiliaires sont des évêques aides. Ce n'est pas pareil que un évêque. Pourtant, à Paris, il y a 3 sièges épiscopaux, puisqu'il y a 3 cathédrale, au sein de l'Église catholique romaine. Il y a normalement Notre-Dame, actuellement je crois que le siège est déplacé à Saint-Sulpice puisque Notre-Dame a brûlé, qui est le siège du diocèse de Paris. Vous avez l'Église Saint-Louis des Invalides, qui est cathédrale du diocèse aux armées. Et vous avez l'église Notre-Dame du Liban, qui est rue d'Ulm, qui est le siège du diocèse de Paris et de l'église maronite, qui fait pleinement partie de la communion catholique romaine, même si c'est une église orientale. Donc, les ecclésiologues sont très, très divisés sur cette question entre ceux qui disent que cette diversité... Alors, tous les ecclésiologues catholiques récents justifient la diversité, mais avec tendance à penser que les maronites doivent rester au Liban et les syro-malabar en Inde. En revanche, peut-on avoir dans la même ville, dans la même zone géographique, plusieurs disciplines dans la même église catholique romaine? Les gens sont très divisés. Après ça, ce qu'on constate, c'est que la pratique, comme toujours dans l'église, devance l'écriture théologique. En ce sens que si beaucoup d'ecclésiologues disent « Ah, il faut obéir au canon 8 de Nicée, un seul évêque, un seul rite par ville », et la seule façon vraie de concevoir l'Église romaine, en pratique, il s'est créé des diocèses orientaux dans énormément de villes d'Occident, donc je vous disais des maronites à Paris, mais par exemple, des syro-malabar, il y en a à Toronto, et qui ont des diocèses, il y en a à Toronto, il y en a à Chicago, il y en a à New York, il y en a à Buenos Aires, parce que les Indiens constituent une forte diaspora, et du coup, ces diocèses ont été créés. Donc, effectivement, on peut le voir. Après ça, je pense que dans la question de Dominique, il y avait d'autres questions. Quand il parlait des obédiences peu compatibles, nous oui, savons bien quoi.
On voit bien aujourd'hui qu'il y a plusieurs églises dans l'église, si je peux dire, entre les tenants de, par exemple, Lefèvre -. Hein, ceux qui ne sont pas dans le schisme, et d'autres dans lesquels je me place, ou ceux qui sont un peu en marginaux dans lesquels je me place, ça n'a rien à voir. Je choisis les paroisses. En fait, je pratique personnellement le nomadisme paroissial. C'est très, très mal, mais bon, je vais où ça me plaît.
Alors, est-ce que c'est très, très mal? J'en sais strictement rien. C'est possible quand vous habitez dans une grande ville. C'est un luxe de grande ville, excusez-moi. Quand vous habitez là où j'ai ma maison de campagne, on est obligé de supporter ce qu'on a sur place ou de ne pas pratiquer. Ou bien alors, on envisage de faire 70 à 80 km pour trouver quelque chose qui nous convienne. Alors, ceci dit, dans mon village, il y a des enfants catéchisés et qui habitent à 60 ou 70 km parce que la personne responsable des catéchistes a beaucoup d'aura et qu'elle elle attire des gens qui se sentent mal à l'aise dans leur village, y compris des diocèses voisins. Mais c'est pas... c'est quand même pas si facile. C'est une question qui n'est pas neuve dans l'Église. Elle se pose déjà au Moyen-Âge, où les gens préfèrent aller écouter le prêche chez les franciscains ou chez les dominicains plutôt que de subir le curé de la paroisse. Et qui pose cette question de est-ce qu'on a une paroisse territoriale? Et c'est pareil pour le diocèse, qui permet d'exprimer l'aspect multiple de l'Église et multiples obédiences. Et pour caricaturer, la paroisse peut avoir une troupe de scouts d'Europe et une troupe de scouts de France. Ou est-ce que, compte tenu de ce que peut faire une paroisse qui ne peut pas tout faire sauf si elle est très grosse, ben, elles ont un peu des colorations. C'est difficile. En revanche, ce qui est important, c'est d'apprendre à s'accueillir les uns les autres. Et donc, pour ma part, même si j'ai des choix personnels, je m'astreins un petit peu au nomadisme pour, mais c'est aussi un peu professionnel, hein, pour sentir différentes ambiances d'église. De même que je lis les newsletters d'un très grand spectre, mais vous n'allez pas passer votre vie à ça, ce n'est pas votre métier. Donc, contrairement à moi. Par contre, ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est à ne pas s'excommunier dans nos, dans ce que nous considérons comme important. Et ce n'est pas si facile que ça. L'autre fois, une personne me disait, donc, qui était dans une paroisse qui tournait plutôt de façon contemporaine, et où ils ont, entre guillemets, reçu un nouveau curé très traditionnel, puisqu'il porte, il porte la soutane, et, y compris dans la rue. Et une de ces personnes me disait, mais je ne sais plus où est Dieu, quelle importance la longueur de la nappe pour rencontrer Dieu. Alors que dans le rite tridentin, la question des longueurs de nappe est extrêmement présente et c'est quelque chose de fondamentalement anthropologique, le rite. C'est-à-dire que quand il n'y a aucun rite, et le rite, toujours, la question, c'est de savoir si on l'idolâtre dans sa façon de faire, mais s'il n'y a aucun rite, il n'y a plus d'humain. Je vais vous raconter un petit exemple. J'étais prof dans le public il y a une trentaine d'années, quand dans la classe que j'avais, dont j'étais professeur principal, un des élèves perd sa maman. Donc, cette dame qui avait un enfant de 15 ans meurt jeune. Elle n'avait pas eu son gamin à 17 ans, mais elle ne l'avait pas eu non plus à 45. Et j'étais prof principal, j'emmène mes élèves aux obsèques de cette dame qui était donc la maman de leur camarade. Et c'était une classe de seconde. Dans le monde actuel, beaucoup d'enfants ont été protégés de la mort. Donc, sur cette classe, plus de la moitié des élèves n'avaient jamais assisté à des obsèques. La famille du garçon qui avait perdu sa maman était une famille athée non pratiquante. On a mis ce corps dans la terre sans une parole, sans un rite. La seule chose, c'est que les pompes funèbres ont bien fait leur travail avec dignité. Quelque part, il y avait quelque chose qui manquait. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne n'a posé un geste, personne n'a mis, ce qu'on fait beaucoup dans les campagnes, une poignée de terre sur le cercueil, personne n'a béni le cercueil, personne. Le rite, c'est profondément humain, et quand il n'y est pas, il y a quelque chose qui manque, surtout dans les périodes. Donc, les questions de rite sont importantes, et c'est vrai qu'elles sont passionnelles dans notre Église, dans la mesure où les rites ont légèrement été modifiés au moment du Concile. Quand je dis légèrement, on a pas mal étudié les choses, ce n'est pas énorme. Mais du coup, une certaine cristallisation s'est faite sur le rite. Est-ce que cette cristallisation est seulement au niveau du rite, ou est-ce qu'elle est aussi dans des façons de croire? On va vous parler de valeurs également. C'est Ratzinger, qu'on ne peut guère accusé d'être un dangereux gauchiste, qui affirme que le christianisme n'est pas un système de valeurs, c'est la rencontre avec une personne. Donc la question finalement qui va être le plus importante pour vivre, c'est: est-ce qu'on va reconnaître à l'autre qu'il a rencontré de façon différente de nous, mais qu'il a rencontré le même Seigneur Jésus-Christ? Et donc la question, ça va être: est-ce qu'on va être capable de prier et de parler de Jésus-Christ entre nous? Et c'est là qu'est l'enjeu de l'unité. Ce n'est pas de savoir s'il faut ou non avoir telle ou telle position sur des questions sociétales au nom de notre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Après cela, l'ecclésiologue c'est assez facile de parler derrière un ordinateur, devant un écran Zoom. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile à vivre et je le vis au quotidien dans les paroisses que je fréquente, de le vivre dans les fêtes. Finalement, accueillir l'autre, oui, mais à condition qu'il ne me dérange pas dans mes convictions, c'est extrêmement difficile. C'est un enjeu pour notre Église, mais pas que pour la nôtre. Les Églises orthodoxes sont confrontées à ça, les Églises anglicanes l'ont été, et sur des questions importantes, la question de l'ordination des femmes divise les églises anglicanes, puisqu'elles ont un clergé ordonné. La question de l'existence de femmes pasteurs divise les églises protestantes. Une des plus grosses églises protestantes évangéliques des États-Unis vient de se faire exclure de sa fédération d'églises évangéliques parce qu'elle avait ordonné des femmes pasteurs. Donc, on est dans des questions très à fleur de peau et il nous faut demander beaucoup de grâce pour être capable de vivre dans la différence et d'accueillir l'autre avec sa foi différente. Et c'est là que c'est important de savoir, d'avoir une hiérarchie des dogmes, finalement. Les dogmes qui font qu'on se reconnaît frère et quels sont ceux sur lesquels on n'est pas d'accord, mais qui nous permettent de... qui sont secondaires. Enfin, qui sont secondaires, qui sont moins importants.
Ces échanges entre différents groupes qui croient des choses différentes, ça, c'est difficile, mais c'est aussi d'autant plus difficile que souvent il y a dans les églises une tendance à faire de la politique, se mêler de, et je parle de toutes les églises.
Oui, absolument.
Il n'est pas rare d'entendre un pasteur ou un prêtre ou un évêque en chair ou dans des discussions qu'on a pu avoir récemment qui s'érige en censeur de la politique.
Alors, c'est là aussi que se pose la question de notre type de présence au monde. Et... donc, de ce que le Concile Vatican II enfin, appelle la juste autonomie des choses terrestres. Le politique, pas au sens de la politique politicienne, il n'a pas seulement, il a à créer les conditions du vivre ensemble, et donc il a à gérer ce qui ne va pas. Je me rappelle d'une discussion œcuménique lors d'un congrès œcuménique sur la question du divorce dans les églises et comment les différentes églises gèrent le remariage, en gros. Et beaucoup d'églises disaient qu'elles étaient contre le divorce. Aucune église ne trouve que le divorce est une bonne chose. Mais entre des églises intransigeantes qui mettent un couperet et excluent, et d'autres qui sont capables d'accompagner l'échec, puisqu'on reconnaît dans tous les cas qu'il y a échec, hein, il y a une autre façon, des façons différentes de vivre les choses. Donc là, effectivement, quand entre guillemets on se mêle de politique, on peut avoir des extrêmes qui se mettent en place. Et ça pose des problèmes pour l'unité de l'Église, effectivement. On a eu des exemples très forts dans le quinquennat précédent, celui qu'on a actuellement. Et la question de savoir si, en tant que chrétien, en tant qu'Église, on doit être dans le témoignage ou dans l'action politique, politicienne en tant qu'Église, actuellement, est plutôt tranché dans le sens qu'il ne peut pas y avoir. L'enseignement actuel de l'Église, c'est qu'il n'y a pas de parti chrétien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des chrétiens qui aient la nostalgie de ça.
D'un autre côté, on a des tas de pays où, pour des raisons identitaires, le fait d'être d'une religion vous assimile tout de suite à un clan plutôt qu'à un autre. Ça, oui. C'est aussi une réalité, que ce soit dans les Balkans, dans des pays d'Afrique ou dans des ou au Moyen-Orient. C'est des choses courantes. Et dans ce cas-là, si vous êtes chrétien, vous pouvez, ça crée un fossé par rapport à toute une partie de la population et vous êtes supposé adhérer au parti chrétien, enfin, au parti qui représente les chrétiens du pays, quoi. Je crois que ça, c'est aussi une difficulté.
C'est une difficulté personnelle, pas seulement personnellement, mais si on revient à l'origine, la lettre aux Galates, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'hommes libres et d'esclaves, il n'y a plus de juifs ni de grecs, il n'y a plus l'homme et la femme, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Le christianisme, à l'origine, subvertit toutes les attaches existantes. Jésus avait un publicain et Simon le Zélote, donc des résistants à l'occupant romain. Il avait dans ses disciples des gens qui étaient signes justement des fractures de la société de son temps. Et c'est bien le projet chrétien de réconciliation qui est d'arriver à vivre au-delà de ces fractures. Je ne vous dis pas qu'on y arrive. Je ne vous dis pas qu'on y arrive, je ne sais pas si l'Église y arrive, mais les Églises ont, à partir de Constantin, eu ce rêve d'installer des sociétés chrétiennes qui se sont heurtées à la réalité. Et une des questions qui va se poser, j'arrête pas de vous dire que l'Église est en transformation, ça va être comment on va vivre en chrétien alors qu'on est des individus. Il y a de plus en plus de gens qui vivent, qui se disent chrétiens et qui vivent dans des familles où ils sont le seul chrétien. Il y a de plus en plus de couples où un seul des partenaires se dit chrétien. Il y a, etc. Comment on va inventer une vie chrétienne et un être en Église dans ces conditions sociétales? Là, je vous avoue que je n'ai pas la réponse, mais qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Et qu'il faut prier l'esprit, il faut faire preuve de créativité, tâtonner. C'est un enjeu fondamental pour l'Église du XXIe siècle. Je reprends une question qui m'était posée, qui est peut-être anecdotique. Est-ce qu'il est possible de revenir sur un dogme établi lors d'un concile? Alors, la question, tout à l'heure, on l'a posée sur ce fameux canon 8 de Nicée sur un évêque par ville, qui, pour l'instant, personne n'est revenu dessus, mais en pratique, il y a plusieurs évêques à Chicago, plusieurs évêques à Paris, et plusieurs évêques à Toronto, et plusieurs évêques à Buenos Aires, et j'en passe. En revanche, je peux vous parler d'un dogme sur lequel l'Église est revenue officiellement, c'est la catégorie des nimbes. Est-ce que vous avez entendu parler des nimbes? Alors, dans la question qui agite l'humanité du second millénaire, c'est celle de qu'est-ce que je vais devenir après ma mort? Est-ce que je vais aller en enfer ou pas? Ou est-ce que je vais aller au paradis? Pendant très longtemps, l'Église a répondu de façon dichotomique. Si vous êtes trop pécheur, vous allez en enfer, et si vous êtes en état de péché mortel, vous allez en enfer. Si vous avez les sacrements de l'Église, etc., vous irez au paradis. Après, cette question de séparer les gens entre ceux qui allaient en enfer et ceux qui allaient au paradis était un peu dichotomique, et on voit apparaître dans la théologie du XIIIe et du XIVe siècle l'idée de purgatoire qui permet d'avoir une espèce de dosage approprié à chacun en fonction de ses qualités, de ses défauts, de ne pas envoyer en enfer les gens qui ont volé trois poires dans un champ, et de ne pas envoyer au paradis tous ceux qui sont loin d'être tout le monde, au risque de ne pas inciter à une vie meilleure. Et donc on invente le purgatoire, mais il y avait une catégorie de toute façon: pour avoir une chance d'être sauvé, il fallait être baptisé. Quitte à faire un peu de purgatoire, si on n'était pas baptisé, on ne pouvait pas être sauvé. On est dans une période du Moyen-Âge, entre le Xe et le XVe siècle, où on sait bien qu'il y a des non-baptisés, mais ce sont des juifs et des infidèles. Infidèles, c'était les musulmans. Hein. Donc, on ne se pose pas trop des questions pour eux. Et la question qui va commencer à se poser, c'est celle des enfants morts sans baptême. Parce que, puisqu'on ne pouvait pas aller au paradis sans être baptisé, ces pauvres bébés qu'on ne pouvait pas baptiser parce qu'ils étaient, ils mouraient trop vite et qu'on n'avait pas le temps de les baptiser, on les envoyait en enfer. Et quelque part, ça manquait de bon sens quand même de se dire qu'ils étaient, ils n'avaient pas pu connaître le péché, ils étaient à peine sortis du ventre de leur mère et on les envoyait en enfer comme des pécheurs. Et c'est là qu'on invente la catégorie des nimbes, qui est une espèce de catégorie intermédiaire où il n'y a pas la vision béatifique du paradis, mais il n'y a pas non plus l'enfer. Toutes ces doctrines d'envoyer en enfer, puis après dans les nimbes, ces enfants morts sans baptême, ça a été surtout finalement une double peine pour les pauvres mères qui, en plus d'affronter le chagrin d'avoir perdu un enfant qu'elles venaient de mettre au monde, se retrouvaient avec l'inquiétude, voire la culpabilité que ce pauvre bébé soit en enfer. Ces nimbes ont disparu officiellement à la suite d'un décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1991 ou 92. Donc, on a rayé un dogme, entre guillemets. Vous voyez bien que si je vous parle de hiérarchie des dogmes, on était dans un dogme mineur. On ne pouvait pas qualifier de central.
Des obsèques pour les enfants non baptisés.
Recommence. Oui.
Oui.
Tout à fait. Alors, j'ai moi-même été concernée puisque j'ai perdu deux bébés à la naissance. Il n'y a eu aucun problème. Ils ont été enterrés à l'église. Personne ne nous a mis aucune question là-dessus. C'était évident pour tout le monde, pour le curé de notre paroisse, pour...
Oui.
On n'a pas eu l'impression de passe-droit. Hein.
La question se pose quand c'est un enfant mort-né.
Voilà. Alors,
pratiques sont différentes selon les
paroisses. Et puis, oui, enfin, il y a quand même une contradiction. Si l'enfant est respectable... intra-utéro, on ne voit pas pourquoi le fait qu'il soit mort-né ne lui valent pas les obsèques religieuses.
Absolument. Mais je pense que les pratiques sont de plus en plus orientées vers le fait qu'il puisse y avoir obsèques religieuses. Bon, dans notre cas, ils n'étaient pas mort-nés, ils ont été déclarés à l'état civil. Mais effectivement, il n'y a aucune raison que ça n'existe pas, ces obsèques religieuses.
Excusez-moi.
Oui, Marie.
J'ai une amie qui a mis au monde un enfant qui était mort. Il y a eu des obsèques religieuses pour cet enfant. Oui.
Donc, ouais. C'est bien.
Ben oui.
Non, mais ça, je connais une famille où ça a été refusé récemment.
Ils ont été chez les orthodoxes qui, eux, n'ont fait aucune difficulté.
Je pense qu'en fait, il reste des paroisses, des clercs qui manquent de bon sens pastoral. Je crois que c'est simplement ça.
Excusez-moi de réagir, mais je suis bien placée pour en parler. Je travaille au service catholique des funérailles et je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, tous les enfants mort-nés ou les enfants de vie d'une journée, ou de, voilà, ils passent tous à l'église et aucun jugement et aucun refus, que ce soit le diocèse de Paris ou dans n'importe quel diocèse.
Normalement, il ne devrait pas y en avoir, effectivement.
Merci beaucoup.
Merci. Je pense qu'on peut. Arriver.
Mais ne dites pas pour autant que ce n'est pas vrai.
Ça n'est pas.
Dans votre expérience, vous n'avez pas rencontré ce cas-là, mais ne dites pas que ce n'est pas vrai.
Je l'ai rencontré, c'est pour ça.
Ouais. Je pense qu'il y a quand même des endroits où des curés ou des prêtres s'arrogent des prérogatives qu'ils n'ont pas à avoir. Et effectivement, normalement, un enfant doit avoir droit à des obsèques religieuse. Et c'est vrai que quand on passe par les services catholiques des funérailles, il y a une intermédiation qui permet de, entre guillemets, de négocier.
Moi, je ne sais pas.
Excuse-moi.
Bon, il faut qu'il écoute. Ça y est. Oui, je voulais vous demander, moi j'ai une tante qui est décédée du Covid, donc qui a été incinérée, et on a fait une messe un an après, l'année dernière, au mois de juin. Et le prêtre m'a tout de suite dit, les cendres ne seront pas dans l'église. On ne peut pas faire une messe avec des cendres dans l'église. Donc elle était dans la sacristie, dans un coin, et puis je me demande pourquoi.
Je peux répondre à cette question, madame. On bénit un corps, on ne bénit pas des cendres. Quand on vient à l'église, on emmène devant le Seigneur un corps pour être béni, tout simplement. Et donc, ce que vous avez vécu, c'est une messe requiem avec mémoire du défunt ou de la défunte.
Oui.
Excusez-moi, mais on va passer notre temps à parler des funérailles, puisque c'est la suite de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, si...
Alors, je dois dire, le prochain trimestre, c'est le trimestre sur les sacrements, mais il vous parlera également des funérailles, qui ne sont pas un sacrement, hein, mais du coup, ce sera beaucoup plus concret. Je vous propose qu'on garde ces questions-là et puis qu'on revienne sur les questions plus ecclésiologiques. Et... j'ai eu une question sur l'ecclésiologie protestante. Alors, je voudrais revenir sur le fait qu'il n'y a pas une, mais des ecclésiologies protestantes. C'est déjà important. En revanche, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est... la question de la réalisation de l'Église. Pour, je vous ai toujours dit que l'Église locale est l'Église en un lieu. L'Assemblée, comme on le voit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, je me répète un peu, ça veut dire que cette Assemblée qui est à Corinthe est pleinement l'Église dans son ici et maintenant d'assemblée. Ceci est vrai dans toutes les églises chrétiennes. C'est reçu dans toutes les églises chrétiennes. Après ça, il y a la question de l'Église avec un grand E. Ça, donc, cette Église de Dieu qui est à Corinthe, c'est l'Église locale. L'Église avec un grand E qui, en protestantisme, est l'assemblée de tous ceux qui confessent Jésus-Christ et qui ont été régénéré par le baptême, en gros. Mais autant en orthodoxie, en catholicisme, l'Église, pour être l'Église universelle, doit avoir un support social, historique, institutionnel. Et donc, aussi bien en ecclésiologie orthodoxe qu'en ecclésiologie catholique, l'Église orthodoxe ou l'Église catholique sont la véritable Église. Parce que la véritable Église doit avoir une réalité institutionnelle, une réalité sociale, une réalité historique. En protestantisme, il n'est pas nécessaire que la véritable Église ait une existence institutionnelle. Ce qui signifie que il suffit de savoir qu'il existe théologiquement, qu'il existe dans le projet de Dieu, l'Église, qu'elle rassemble tous ceux qui sont au Seigneur, mais il n'y a pas besoin d'un support, d'une institution. Ce qui, dans le travail œcuménique, pose le problème du fait que la séparation des Églises n'est pas une douleur au même niveau, puisque les protestants qui sont extrêmement différents entre eux se sentent unis dans l'Église, même si leurs églises locales sont très différentes. Comme toujours dans le cas, très souvent dans ces questions, l'Église anglicane est quelque part entre les deux, parce que rien n'est jamais tranché. Après, il y a les questions comment s'organisent les ecclésiologies protestantes. En règle générale, il y a beaucoup plus de synodalité effective dans le protestantisme que dans le catholicisme du deuxième millénaire. Il y a trois grandes formes d'ecclésiologie protestante. Il y a les ecclésiologies qui reconnaissent les ministères de l'évêque. Donc, ce sont des églises qui correspondent à un nombre important d'assemblées qui sont réunies et qui ont des évêques qui marquent leur union. Alors, par exemple, ça va être le cas des églises luthériennes scandinaves, de l'Église protestante unie du sud de l'Inde, et bien sûr des églises anglicanes. Et donc, si je prends Église protestante unie du sud de l'Inde, ça correspond à des églises protestantes qui correspondent au cône sud de l'Inde, je ne sais pas si vous voyez à peu près la carte de l'Inde, et qui ont un certain nombre d'évêques qui, donc, sont les ministres de l'unité de toutes ces églises protestantes. Il y a une autre forme d'ecclésiologie qui est celle de l'Église protestante unie de France, qui sont des églises presbytériennes. Chaque église locale est prise en charge par un conseil presbytéral, entre guillemets, un conseil d'anciens. Et le conseil presbytéral et le pasteur vont faire vivre ensemble la paroisse, puisque l'église locale protestante, c'est le modèle paroissial. Dans l'église réformée de France, et les églises luthériennes qui les ont rejointes. Donc, ces églises presbytériennes peuvent être mono-assemblées, mais la plupart du temps, elles sont fédérées en de grandes unités, comme l'Église protestante unie de France. Mais vous en avez une autre Église protestante d'Alsace-Lorraine, qui en est une autre, vous voyez. Et du coup, comme elles sont fédérées en grandes unités, elles ont ces conseils presbytéraux, il y a beaucoup de lieux de synodalité. La synodalité locale, puis la synodalité entre au sein de cette Église protestante unie, qui leur permet d'avoir en particulier des richesses de théologiens, des formations de pasteurs, et puis éventuellement une parole commune, etc. D'autres églises protestantes sont sur des modèles de congrégation où en principe c'est l'assemblée qui se prend en charge. Normalement, ce sont des petites églises. Parce que quand elles disent qu'elles sont sur le modèle congrégationaliste et que ce sont des grosses églises, ça veut dire qu'en fait, il y a un pasteur charismatique ou il y a des conseils, sinon ça ne marche pas. Mais il y a dans ces églises, certaines sont fédérées en groupe et d'autres sont mono-congrégation, mono-assemblée. Donc, il y a plein de formes concrètes d'ecclésiologie dans le protestantisme. Et les nuances sont toujours très floues entre les différentes formes de structure. En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est que normalement, il y a des loupés hein, comme partout, elles sont basées sur une très forte synodalité, c'est-à-dire une très forte écoute, une très forte délibération dans l'organisation de l'Église et dans les relations de l'assemblée locale avec les autres assemblées locales et dans les décisions et dans la régulation du dogme. Parce que dans la mesure où en protestantisme, il n'y a pas de magistère, c'est une forme de régulation synodale entre théologiens qui régule le dogme en protestantisme. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il y a d'excellents théologiens dans le monde protestant, comme il y en a d'autres qui sont peut-être plus fondamentalistes. Est-ce que j'ai éclairé la question? Sur les ecclésiologies protestantes.
Oui,
alors, ouais.
C'est surtout le modèle presbytérien qui m'intriguait et merci de l'avoir expliqué. Merci.
C'est presque le plus courant dans les églises qu'on appelle mainline, les églises historiques. Le modèle épiscopalien est assez rare quand même. Et quand je vous dis que, par exemple, c'est le modèle des églises scandinaves, c'est des lieux où l'Église et l'État ne sont pas séparés. Hein. C'est encore des monarchies. Et, bon, ça sépare, mais on est dans des modèles plus anciens. Alors, j'ai une remarque. Enfin, j'ai un certain nombre de remarques plus que de questions. Pour l'avenir, il me semble qu'il faudrait associer les chrétiens de base, mouvement paroisse pour les nominations d'évêques, une conférence épiscopale qui associerait les laïcs. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Le synode qu'a convoqué notre pape François, il est justement là pour poser ces questions. Et un enjeu entre guillemets, de la réussite de ce synode. Ne croyons pas que les choses vont changer en 5 ans, en 10 ans, où ça bouge, mais lentement. Mais un enjeu de la réussite, c'est que les chrétiens, les paroissiens, les membres des mouvements, si possible des chrétiens non pratiquants mais qui se reconnaissent comme tels, arrivent à prendre la parole et à donner leur avis, à intervenir dans la vie de leur Église. Et pour moi, qui ai été prof longtemps, je suis encore, mais j'essaie de me rappeler quand j'étais prof de physique, qui est une matière plus neutre, entre guillemets, où il y a moins d'affect, hein, je me suis rendu compte que pour qu'un élève pose une question, il fallait qu'il ait suffisamment compris. En ce sens qu'un élève qui est totalement noyé n'est pas capable de poser une question. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et j'ai souvenir d'une fois un élève qui me formule une question, donc c'était de la physique. J'étais prof de mathématiques spéciales, de maths spé, et qui me pose une question de niveau seconde, qui n'avait pas comprise. Et là, je me suis dit, oh là là, mes collègues avant moi et moi, on a mal travaillé pour l'avoir laissé dans la souffrance d'être arrivé à ce niveau-là sans avoir compris cette question et de n'arriver qu'aujourd'hui à la formuler de telle sorte que je puisse essayer d'y répondre. C'est embêtant. Donc, c'est vrai qu'un des enjeux, ça va être que dans les mouvements, dans les paroisses, on apprenne à discuter, à poser des questions, à donner un avis et à s'écouter les uns les autres pour, vous savez, en théorie des organisations, on sait que pour qu'il y ait créativité, il faut qu'il y ait un peu de frottement. Il faut qu'on ne soit pas tous d'accord. Il ne faut pas que le consensus arrive au premier coup. Sinon, on fait des trucs, on fait des choses banales. Et donc, c'est vraiment important de participer au maximum à ce synode. Si vous pouvez le faire, là où vous êtes, c'est bien. Vous pouvez également créer votre propre groupe synodal avec des gens que vous connaissez. Et du matériel, on en trouve sur les sites des diocèses. Si suite votre diocèse ne vous convient pas, vous allez chercher sur un diocèse à côté. Pour info, au CIF, on aime bien le diocèse de Saint-Denis, on aime bien le diocèse de Grenoble. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui travaillent bien. Et éventuellement, vous faites remonter par vos diocèses. Mais là, c'est extrêmement important d'apprendre à se dire, mais de quoi je rêverais pour mon Église? Quelles sont mes expériences d'Église positives en termes de synodalité? Et de quoi je rêverais pour moi, pour les autres, pour les plus pauvres, pour mes enfants et mes petits-enfants, et d'arriver à le dire. Alors, j'avais une question de la façon dont qui pose la question de la façon dont sont nommés les évêques. De façon générale, depuis que l'État et l'Église sont totalement séparés. Les évêques sont nommés depuis le Vatican. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, c'est l'État français qui, dans le cadre du Concordat, nommait les évêques. Hein. Et c'est encore le cas à Strasbourg et à Metz. Le principe, et c'est le principal travail du nonce apostolique, le nonce apostolique doit en permanence consulter et proposer à la congrégation pour les évêques, qui est dirigée par le cardinal Ouellette, des noms pour chaque siège vacant. Donc, le boulot du nonce apostolique, qui est le représentant du Vatican en France, par exemple, c'est un peu de travail diplomatique, mais dans la mesure où l'Église et l'État sont séparés, c'est simplement pour rester en bon terme, pour rencontrer, etc. Mais c'est surtout de préparer le travail pour ces nominations d'évêques. Sur le plan pratique, dans chaque diocèse, les évêques doivent tenir à jour une liste de prêtres dont ils pensent, en leur âme et conscience, qu'ils sont capables d'être évêques. Alors, il y a une condition de diplôme, mais bien sûr, ça ne suffit pas, mais c'est un diplôme niveau master qu'il faut avoir eu, soit en théologie, soit en philosophie, soit en droit canon. Ça peut être une des trois matières. À tout hasard, dans le cas de Jean-Paul II, c'était en philosophie, ce n'était pas en théologie. Ça, c'est une question de diplôme. Mais ce sont également des gens qui sont déjà prêts. Évidemment, ce n'est pas seulement ça. Sont-ils capables d'être pasteurs? Ont-ils sens de l'unité? Sont-ils capables d'avoir du leadership? Vous avez d'excellents curés qui sont d'excellents accompagnateurs de paroisse et qui n'ont pas les épaules pour l'épiscopat, bon, etc. Donc, il y a cette liste qui doit être mise en place. Entre parenthèses, il y a 100 diocèses en France. Vu le nombre de prêtres qui s'est beaucoup amenuisé, le vivier, c'est également beaucoup de personnes capables de prendre un épiscopat, c'est d'autant plus amoindri. D'autant plus que c'est un ministère très, très, très lourd qui a connu une grande inflation de responsabilités depuis le Concile Vatican II. Et le travail du nonce, ça va être de consulter. Alors, sauf cas exceptionnel, et nous en vivons un actuellement à Paris, il y a un peu de temps pour consulter. En fait, ce n'est pas si vrai, parce que quand on nomme à Strasbourg un évêque qu'on a pris, à Strasbourg ou ailleurs, hein, qu'on aura pris à Tours, ou bon, qu'est-ce qui arrive actuellement? On vient de nommer à Toulouse l'évêque de Grenoble. Donc, autant Toulouse, on savait qu'il allait falloir renouveler l'évêque puisque c'est juste une question de limite d'âge, autant du coup, Grenoble, le siège de Grenoble se trouve vacant d'une façon peut-être un peu rapide et non prévue. Bon. Toujours est-il que le travail du nonce, pendant ce temps où le siège est vacant, donc c'est ce qu'il fait actuellement à Paris, c'est de consulter. Je suis certaine que les nonces consultent. La question, c'est de savoir qui ils consultent. Est-ce qu'ils se contentent de consulter le vicaire général et quatre curés dans le diocèse? est-ce qu'il consulte l'ensemble du presbytérium du diocèse? Est-ce qu'il va au-delà des clercs? Ça, c'est beaucoup lié à la façon dont le nonce comprend son travail. Et c'est beaucoup lié, la façon dont il comprend son travail, ça va beaucoup être lié à la théologie de l'épiscopat, la théologie du prêtre et la théologie de l'Église qu'il va avoir. S'il s'agit d'un nonce qui a une compréhension très synodale de l'Église, il va s'efforcer d'avoir une consultation le plus large possible. Mais s'il s'agit d'un nonce beaucoup plus classique, je dirais, qui a une conception de l'épiscopat et du ministère du prêtre en termes de responsabilité à accomplir, de capacité à mener un peuple, donc finalement en termes de pasteur et de brebis, il risque de très peu consulter au-delà du presbytérium et peut-être même de ne pas consulter tous les prêtres. Donc, on va avoir des nominations un petit peu dépendantes de ces choix théologiques. Il y a eu, à certains moments, par exemple, des nominations de directeurs de séminaires de façon en nombre non négligeable dans le monde. Un directeur de séminaire qui n'a fait que ça, surtout pour peu qu'il ait été directeur de séminaire dans un autre pays que le sien, c'est pas quelqu'un qui a fait preuve qu'il a le sens pastoral. Vous voyez ce que je veux dire? D'un autre côté, un curé de paroisse, même si c'est un excellent pasteur, n'a pas forcément les charismes qu'il faut pour être évêque. Donc, on est dans l'humain, mais il est certain que la qualité de l'écoute du nonce sur qui repose beaucoup le choix est importante. Alors, le nonce, à la suite de toutes ces consultations, propose trois noms à la congrégation des évêques. Et la congrégation des évêques en choisit un, et le pape, c'est pas le pape qui monte tout, il y a 3000 diocèses dans le monde, le pape ne s'occupe pas des nominations. Je me suis laissé dire qu'un certain nombre de nominations avaient été faites en dehors du panier, entre guillemets. Je n'ai pas de nom. Donc, je n'ai aucun, c'est pas moi qui dit quoi que ce soit, j'ai aucun nom pour savoir qui pourrait être concerné par cette affirmation.
Est-ce que des nominations peuvent être faites parmi les supérieurs de congrégation?
Alors, parmi des prêtres issus de congrégation, ben oui, le pape en est l'exemple vivant, puisqu'il a été nommé évêque de Buenos Aires alors qu'il était jésuite, et qu'il n'a jamais été curé de paroisse, à ma connaissance.
D'accord.
Ce n'est pas, a priori, la vocation des membres de congrégations religieuses. Après cela, ça ne veut pas dire qu'ils font des mauvais évêques, systématiquement. Ça ne veut pas dire non plus, mais a priori, ce n'est pas leur vocation. Avant Bergoglio, il y a eu à Milan un évêque qui a été extrêmement charismatique pour Milan, le cardinal Martini, qui était Papa Billet au moment où Benoît XVI a été élu et qui a fait savoir à la congrégation qu'il était obligé de refuser parce qu'en fait, il savait qu'il était très malade. Il est effectivement décédé 18 mois plus tard à peu près, et qui était jésuite également. Et c'était un homme qui avait énormément d'aura dans son diocèse, et le diocèse de Milan, c'est un des très gros diocèses de l'Église catholique, ce d'autant plus que l'Église a une très grande mémoire historique. Et donc, les sièges d'évêques qui ont été des très, très grands évêques au début de l'Église, donc le siège de Lyon pour Saint-Irénée, le siège de Milan, Saint-Ambroise, le siège de Poitiers, Saint-Hilaire, sont des sièges particulièrement symboliques, même si ce n'est que symbolique. Et bien sûr, le siège de Pierre. Ça va sur cette nomination des évêques ? Une chose importante dans l'état actuel du droit canon et de la discipline de l'Église, quand un évêque ne fait pas l'affaire, qui a eu une erreur de casting manifeste, si il refuse de démissionner, il n'y a pas moyen de le changer avant sa limite d'âge. Il y a eu un cas en France récemment où il y a eu une erreur manifeste dans le choix de l'évêque d'Avignon et qu'il est resté 18 ans évêque à Avignon. Les gens... Le presbytérium ont beaucoup souffert. Et l'évêque qui vient d'être nommé a beaucoup de travail pour recoller les morceaux. D'autres évêques ont accepté de démissionner pour raison de santé. Quand, de toute évidence, ça se passait mal.
Est-ce que je peux poser une question sur les conseils qui existent en paroisse? Il y a un conseil pastoral et un conseil aux affaires économiques et sociales, je crois. Je ne sais pas très bien quel est leur pouvoir, entre guillemets. Fin...
Alors, ces conseils sont consultatifs. Ils sont prévus par le droit canon, mais avec... voix consultative. Ils sont là. Le responsable de la paroisse, c'est le curé. En droit canon, il doit consulter le conseil économique pour les affaires économiques et matérielles. Il doit le consulter. C'est-à-dire là, il ne peut pas engager des frais sans avoir consulté. Mais il a voix consultative. Plus important, je pense, pour nous, sauf dans le cas qui arrive, où un curé ferait des malversations financières, engagerait des dépenses... soit des malversations, soit des dépenses non pertinentes dans le cadre d'un projet pastoral. J'ai entendu parler d'un d'un prêtre qui avait fait des investissements de type immobilier d'un immeuble de luxe sur un terrain de la paroisse. Ce n'est pas dans le cadre français, hein, où notre système de séparation de l'Église et de l'État ne permet pas les mêmes choses. En disant que ça rapporterait à la paroisse, on lui a fait remarquer que ce n'était pas un projet pastoral et un projet ecclésial de faire un immeuble de luxe, même si c'était pour donner, pour que la paroisse ait des rentrées financières plus importantes. Donc, le conseil pastoral, il est là pour conseiller le curé sur la bonne marche de la paroisse, sur ses projets. Et là, il va y avoir, dans la mesure où il n'a qu'une voie consultative, il est prévu par le droit canon, mais il n'a qu'une voie consultative, et ce qui n'est pas prévu également, c'est comment il est désigné. Est-ce que c'est monsieur le curé qui choisit son conseil? Est-ce que il est élu? S'il est élu, comment est défini le corps électoral? À partir de quel âge on vote? Est-ce qu'il n'y a que ceux qui ont payé leur denier du culte qui votent? Est-ce que il y a plein de questions qui se posent? Ensuite, comment sont représentés typiquement des gens qui habitent sur le territoire de la paroisse, mais qui ne sont pas ce que j'appellerais des paroissiens très fidèles, mais peut-être qui ont des choses à dire sur la bonne marche de l'église locale. Non. Donc déjà, la question de la façon dont il est désigné n'est pas clarifiée. Suivant les diocèses, suivant l'histoire des paroisses, suivant le tempérament du curé, suivant plein de choses, ce conseil pastoral va avoir des tonalités différentes. Je crois cependant que les prêtres et les diacres qui sont sur la paroisse doivent tous y être. Il me semble que c'est prévu dans le droit. Mais il me semble. Après ça, la façon dont il fonctionne va aussi être très dépendante des lieux et des personnes. Si vous avez un curé qui reste, entre guillemets, le seul maître à bord, hein, mais si vous avez un curé qui a du don pour la synodalité, il va savoir utiliser son conseil. Il va savoir faire travailler les gens, savoir faire s'exprimer l'esprit par différentes bouches, par différentes sensibilités. Et à la fin, il va pouvoir demander au conseil de prendre une décision. S'il joue le jeu, appliquer la décision si elle est claire. Si un consensus n'arrive pas à se dégager et qu'il faut qu'il prenne une décision, il tranchera, mais au lieu de trancher tout seul, il tranchera en ayant entendu les uns et les autres. Donc, si vous avez un curé qui joue le jeu de la synodalité, ça peut être très bien. Maintenant, si il n'a pas appris à le faire, si les paroissiens ne savent pas le faire non plus, ils ne savent pas s'écouter les uns les autres, les catéchistes ne sont pas capables d'écouter l'équipe de liturgie, qui n'est pas capable d'écouter l'équipe du Secours catholique, s'il n'y a pas une capacité d'écoute les uns des autres, s'il n'y a pas une formation du curé à ce travail en commun, etc., il va servir à pas grand-chose et il va décourager les bonnes volontés d'en faire partie. Et ça va être vrai au niveau du conseil pastoral, mais également au niveau des équipes. Est-ce que le catéchisme, ça a toujours les mêmes personnes qui les font et qui coopteront leur catéchiste? Ou est-ce qu'il va y avoir des co-constructions? Est-ce que une personne va s'arroger le droit de fleurir l'Église, bien ou mal? Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas capable de fleurir l'Église, mais sans participer. Ouais. Donc, le fait est que ces conseils existent, mais qu'ils sont très variables d'un lieu à l'autre et que cette marche vers plus de synodalité, c'est justement un apprentissage de l'Église et des assemblées locales à travailler ensemble pour annoncer l'Évangile sur le secteur qui leur est attribué, entre guillemets. Alors, je vais lire une question qui est posée par quelqu'un qui était là, mais qui n'est plus là, et qui était assez longue. Face à l'évolution exponentielle des progrès techniques qui impactent le champ des possibles et nos visions du monde, face au relativisme des valeurs qui percutent nos certitudes religieuses, face à l'accès pour tous au savoir et la pluralité des points de vue que cela engendre, face au discrédit généralisé de l'autorité, face à l'atomisation et au fractionnement de nos sociétés, quel est le point de vue du CIF pour que l'Église puisse y répondre sans disparaître dans ce maelstrom ? Donc, une question qui est compliquée, qui trace le paysage de notre monde postmoderne, des progrès techniques, relativisme des valeurs, l'accès au savoir pour tous, la pluralité des points de vue, discrédit de l'autorité, atomisation, fractionnement des sociétés. Et la question qui est posée, c'est quel est le point de vue du CIF? Le CIF est né, vous le savez, puisqu'on a fêté ça l'année dernière, il y a 50 ans, et le projet est assez explicite, c'est comment permettre à des chrétiens qui sont ou non en responsabilité dans l'Église, mais leur permettre d'avoir une culture théologique ecclésiale telle qu'ils puissent prendre la parole, être des chrétiens actifs, discuter, avoir un regard à la fois fidèle à la foi de l'Église, c'est-à-dire fidèle à Jésus-Christ, et à la fois critique au sens positif du terme, c'est-à-dire capable de poser des questions, d'interroger pour faire grandir et participer à la mission de l'Église. Donc, nous, CIF, ce que nous essayons de faire, c'est de transmettre le trésor accumulé par l'Église pour donner des outils. Quand un prof de lettres enseigne de la littérature ou même quand une institutrice enseigne l'alphabet, c'est avant tout pour faire grandir l'autre, grandir les étudiants. On est dans la transmission et que pour nous, puisqu'on est au CIF et qu'on est croyant, que cette capacité supplémentaire qu'on essaye d'offrir à nos étudiants soit au service de la mission de l'Église. Ce qui ne veut pas dire au service du fonctionnement de l'Église. Hein. La mission de l'Église, c'est d'être signe de Jésus-Christ. Donc, on peut être signe de Jésus-Christ en étant fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Je dis ça au hasard. Hein. Ce n'est pas... c'est simplement être capable de parler de sa foi, de réfléchir. Typiquement, si le nonce apostolique venait vous demander de quoi vous rêveriez pour comme évêque, que vous soyez capable, non pas d'établir une fiche de poste ou un profil de poste complet, mais je rêverais qu'il ait telle qualité. Après, il va faire avec ce qu'il a. Hein, mais s'il a entendu des points de vue différents, il va pouvoir construire. Et donc, que le point de vue des uns et des autres puisse être formulé. Qu'est-ce qui est important dans la mission de l'Église? Qu'est-ce qui est important dans la rencontre de Jésus-Christ? Comment ce texte d'écriture peut me parler? Comment mes prédécesseurs dans la foi l'ont reçu et comment il me fait vivre? Pourquoi, comment Dieu a parlé aux hommes? Comment je peux l'entendre? Etc. Qu'est-ce qui est important dans ma vie chrétienne? Donc, c'est un petit peu ça, le projet du CIF. Et ça ne veut pas dire qu'on a un point de vue sur ce qu'il faut penser. En revanche, alors que nous n'avons aucun doute que l'Église est dans le maelstrom, pour reprendre la formule de la personne qui a posé cette question, nous vivons dans l'espérance que les chrétiens vont être de plus en plus nombreux à être capables de vivre en synodalité et d'exprimer leur sens de la foi au sein de l'Église.
Bonjour. On a une église qui est essentiellement une église, on l'aperçoit plus comme une église de prêtres, et je m'interroge souvent, est-ce que c'était vraiment le projet de Jésus de créer une église de prêtres, alors qu'il n'a jamais abordé ce thème-là et qui semblait plutôt en mauvais terme avec les prêtres de son époque. Plus généralement, comment est-ce qu'on peut se sortir de là et arriver à abandonner le cléricalisme, d'après vous?
Alors, je suis absolument certaine que vous avez tout à fait raison en disant que le projet de Jésus n'était pas de créer une église de prêtres cléricales. Il y a des choix qui ont été faits historiquement et dont nous sommes les héritiers et qui sont en train d'être remis en question. Un premier choix qui a été fait par les églises à l'époque unie, orientale comme occidentale, qui nous marque, a été fait à l'époque constantinienne sous la pression des empereurs de créer des sociétés chrétiennes. Il y a eu une pression des empereurs côté oriental, il y a eu la nécessité côté occidental dans la chute de l'Empire romain et la pagaille qui en a suivi, d'assumer la continuité de la vie. Bon. Bref, il y a eu un choix qui s'est fait de penser que les sociétés devaient être structurées autour du christianisme, autour de l'Église. C'est un choix qui, actuellement, vole en éclats. Mais, vous vous rappelez Constantin, la date, 313, ça fait un moment qu'on vit là-dessus. Le système de l'époque post-tridentine avec tel prince, telle religion était encore sur ce système. Et on est sorti en France du Concordat qu'en 1905 et à marche forcée. Donc, l'Espagne n'est sortie du Concordat qu'en 1975. Il y a encore quelques pays qui vivent avec. Bon. Donc, cette idée de créer des sociétés chrétiennes. Quand les missionnaires partaient, par exemple, en Asie ou au Vietnam, où il y a eu une assez belle évangélisation, ils ont créé des villages chrétiens au sein du pays. Le Vietnam, actuellement, c'est à peu près 7% de chrétiens. Ils ont créé des villages chrétiens. Donc, c'est cette notion qui a été choisie de société chrétienne. Ce n'était pas du tout le choix des églises primitives. Vous vous rappelez de l'épître à Dionysiète. Les chrétiens ne vivent pas dans des quartiers particuliers, ils s'habillent comme les autres, ils mangent comme les autres. Ils vivent dans les cités grecques ou les cités païennes, suivant ce qui leur a été donné d'être. Donc, un premier choix qui a été fait au nom de la mission, de l'évangélisation, du principe de réalité. Un deuxième choix a été fait au moment de l'époque, à l'époque grégorienne, qui a été que l'Église était dans une pagaille noire et ballottée par les pouvoirs des princes. Les princes, à l'époque, l'Europe occidentale est une Europe féodale, de tout petit royaume, de toute petite baronnie, duché, etc., et qui administrer l'Église en nommant les évêques et les abbés des monastères. Et les papes de l'époque donc Grégoire VII, mais également son prédécesseur qui s'appelait Albert, à ma connaissance, son successeur qui s'appelait Nicolas. Je vous fais grâce des numéros, parce que je ne sais pas par cœur. N'ont eu de cesse de restructurer l'Église pour l'arracher, l'histoire dit, au pouvoir des laïcs. En fait, c'est au pouvoir des princes. Donc, ça va être l'époque, par exemple, où se met en place le Collège des cardinaux, parce que le siège de l'évêché de Rome était déjà un lieu de pouvoir dans l'Église depuis très, très tôt, et les grandes familles romaines, ou au moins, ou même italiennes, s'arrachaient le droit de nommer l'évêque de Rome. Et c'était des marchandages entre grandes familles pour avoir un de leurs fils sur le siège de Pierre. Donc, l'idée que le pape nomme un collège de cardinaux, c'est-à-dire le pape au pouvoir, nomme des cardinaux. Et à ce moment-là, les papes, c'était des moines cisterciens. Pourquoi ils avaient été nommés, je ne connais pas assez l'histoire de l'Église pour le savoir. Et donc, ils ont un peu cette image du fonctionnement des monastères. Hein. Mais toujours est-il qu'il va décider de nommer un collège de cardinaux en charge d'élire son successeur pour arracher l'Église au pouvoir des princes et des grandes familles. Et toute cette réforme grégorienne, qui est une réforme terriblement cléricale, a eu comme origine de ne pas laisser le pouvoir spirituel, le pouvoir dans l'Église, aux grandes familles et aux princes de ce monde. Qui nommait les évêques, qui les décidait, et donc qui les déposait également. Et pourquoi ça s'est fait sur ce modèle clérical, c'est ce qu'ils ont trouvé à l'époque. Ça a été fécond, ça a marché pendant des siècles, ça a été contesté dès très tôt, parce que finalement, la réforme protestante, elle conteste ce pouvoir clérical. C'est ce que Luther reproche à l'Église. Et Luther, il n'est pas là pour créer une Église dissidente. Il est là pour interroger son Église et lui proposer des lieux d'amélioration, des lieux d'ouverture et de meilleur fonctionnement. Donc, il a une critique qui aurait pu être constructive si elle avait pu être reçue. Il n'y a pas que Luther. Avant lui, plusieurs décennies avant lui, voire un siècle, je ne me rappelle plus, Jean Hus à Prague a été brûlé vif pour avoir voulu réformer l'Église, etc. Et c'est sûr qu'après la réforme protestante sera une réforme vers beaucoup plus de synodalité, beaucoup plus de responsabilité à tous les baptisés, et que ce qu'on appelle la contre-réforme des fois, mais la réforme catholique, elle va plutôt accentuer la responsabilité des clercs au sein de l'Église en améliorant la qualité des clercs. Une des grandes réussites du Concile de Trente aura été d'élever beaucoup le niveau du clergé. Dans les décisions du Concile de Trente, il y avait de ne plus ordonner de clercs des personnes qui ne savent pas lire. Et vraiment vous mettre au courant du principe de réalité, le Concile se donne 150 ans pour y arriver. Donc, ça signifie qu'à la veille du Concile de Trente, la majorité du clergé était analphabète. Le clergé était pléthorique. J'ai lu, je n'ai pas les moyens de le vérifier, je ne suis pas historienne et je ne sais pas comment le faire. J'ai lu qu'en Catalogne, un quart des hommes étaient prêtres à la veille du Concile de Trente. C'est énorme. Il semblerait qu'en France, en 1880, un quart des femmes étaient religieuses. Énorme. Donc, le modèle clérical a perduré dans cette église tridentine, qui était une église très structurée, très encadrée. C'était également le modèle sociétal. Louis XIV était un roi absolu et l'Église au grand siècle a été une Église d'une très grande richesse spirituelle avec des très grands saints qui ont fondé des ordres hospitaliers, qui ont fondé des écoles, qui ont fondé des... Mais tout reposait sur les clercs qui étaient aidés par les religieuses. Mais les religieuses, même si elles avaient de l'autonomie, en particulier, par exemple, c'est elles qui ont pris en charge l'éducation des filles, hein, elles étaient quand même toujours sous la coupe des clercs. Mais on a besoin de missionnaires, ça va être des clercs. On a besoin d'hospitaliers, ça va être des clercs. On a besoin de théologiens, ça va être des clercs. On a besoin d'enseignants, mais pour enseigner les mathématiques, ça va être des clercs. Vous voyez, ce modèle a été très fécond. Ce modèle ne fonctionne plus. Le problème, c'est qu'il faut, sur un vaisseau église d'1,3 milliard de personnes qui a 2000 ans, on ne change pas les logiciels en 50 ans. On est en train de le faire, mais ça va beaucoup changer. Alors, je suis... l'Église des premiers siècles s'est pensée en termes de ministères. Les ministères, c'était les services à rendre pour le bien de la communauté. Donc, dans l'Épître aux Corinthiens, ces ministères, il y a des apôtres, il y a des ministres, certains sont apôtres, certains sont docteurs, certains sont, ont le don de guérison, etc. Ces ministères étaient, dans l'Église ancienne, très, très variés. On ne sait pas, ils avaient des noms variables, mais en plus, même les noms qu'on a gardés, comme diacre, on ne sait pas ce que recouvrait ce terme. Il est vraisemblable que c'était très différent d'une église à l'autre, d'une église locale à l'autre, et que la seule homogénéité dans l'église, c'était ce ministère d'unité porté par l'évêque. Ces ministères étaient très variés. Petit à petit, dans l'église occidentale, le ministère s'est rétréci pour se concentrer uniquement sur le ministère du prêtre. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une église avec une pluralité de besoins, une pluralité de dons et une pluralité de ministres, on s'est retrouvé avec une église dichotomique. D'un côté, les fidèles, ce qu'on appelait les fidèles, de l'autre, les clercs. D'un côté, les brebis, de l'autre, les pasteurs. D'un côté, les enseignants, de l'autre, les enseignés. Vous voyez? On est en train de voir réapparaître cette théologie des ministères et cette pluralité des ministères. Quand le Concile Vatican II décide de réintroduire le diaconat, il ne sait pas où il va, puisqu'on ne sait pas ce que c'était que le diaconat dans les anciennes églises. On en a des tas d'images, qui sont sans doute non unifiés. Un diacre à Séville n'était sans doute pas la même chose au IIIe siècle, n'était pas forcément la même chose qu'un diacre à Smyrne au premier, etc. Mais, et puis, il y avait des catéchistes, il y avait des docteurs, ce qui signifie que actuellement, on voit réapparaître une pluralité de ministères. Certains d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a dans ce groupe, en général, ils viennent plutôt l'après-midi parce que ça fait partie de leur métier. Certains d'entre vous sont laïcs en mission ecclésiale. En gros, ils sont en CDD dans l'Église. Ce sont des nouveaux ministères. D'autres sont catéchistes. Est-ce que c'est un ministère? Est-ce que ça ne l'est pas? On réfléchit. D'autres sont responsables de la liturgie, préparent au baptême, préparent les fiancés au mariage. Tout ça, dans l'Église du XIXe siècle, monsieur le curé et ses vicaires le faisaient tout seuls, avec quelques religieuses pour l'aider, pour s'occuper des femmes et des petites filles, et fleurir l'Église, et faire le ménage. Cette pluralité de ministères, elle apparaît de fait avant d'être totalement instituée de droit, à part le ministère diaconal. En 1972, Paul VI avait créé des ministères institués, acolytes électeurs, qui n'ont pas été utilisés. À l'époque, il les avait réservés aux femmes, aux hommes, excusez-moi, lapsus significatif. François, en janvier, a décidé que ces ministères institués étaient dorénavant ouverts aux femmes. Alors, ministère institué, ça signifie qu'il y a une institution, une liturgie qui vous institue lecteur ou acolyte, et que, à ce titre, c'est vous qui devenez lecteur en tant que personne acolyte, c'est-à-dire lecteur chargé plus particulièrement du ministère de la parole, ce qui n'empêche pas des gens qui ne sont pas institués de l'être. Mais là, vous avez reçu quelque chose de plus dans cette institution. Et qu'est-ce que ça va donner, le fait que des gens seront institués? En ouvrant aux femmes, il ouvre beaucoup plus ses ministères. D'abord parce qu'en pratique, les gens qui portent l'Église sont beaucoup des femmes, mais également simplement parce que ça signifie que ce n'est pas des sous-prêtres, entre guillemets, mais que ce sont bien des baptisés qui, à ce titre, deviennent ministres. Donc, c'est la signification du ministère institué qui change en disant que tous les baptisés peuvent l'être. Sous réserve, le droit canon dit toujours qu'ils aient les qualités idoines, c'est-à-dire qu'ils soient adaptés. En mai, le même pape François a décidé d'instituer le ministère de catéchiste. Là, on voit mieux de quoi il s'agit. Ce qu'on pourrait appeler le décret d'application, c'est-à-dire la liturgie de cette institution, est sortie aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire. Donc, c'est des petits chemins vers un foisonnement de ministères qui va éviter que se regardent en face à face deux catégories, les clercs d'un côté, les non-clercs de l'autre, et qui va permettre que dans l'Église s'exprime beaucoup plus de voix. Et ça, c'est un cheminement qui se fait petit à petit. Ces membres des équipes pastorales, ce sont des gens qui exercent finalement un ministère, mais cela en CDD, entre guillemets, parce qu'ils vont être, c'est bénévole, c'est pas salarié, mais pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le temps de leur mandat, ça dépend des fonctionnements, ils vont porter plus particulièrement le souci de la paroisse. Le souci de la paroisse, de sa diversité, de son unité, de sa vie dans l'unité et dans la diversité, le souci des pauvres, le souci des enfants, le souci des obsèques, le souci des malades, le souci des mariés et le souci de la présence de l'Église à son territoire, d'être signe de la bonne nouvelle sur un territoire. Donc, ça, c'est toute une pluralité de ministères où on est en pleine phase expérimentale. Ça se théorise petit à petit, mais on est en pleine phase expérimentale. Vous voyez, donc, si je vous dis cette histoire du ministère de catéchistes institué, en gros, je dirais que c'est depuis les années 50 qu'on a des catéchistes. Avant, les catéchistes, il y en avait, mais elles ne faisaient que faire répéter aux enfants ce que monsieur le curé leur avait appris, ou son vicaire, hein. C'est-à-dire que c'est le curé qui faisait le catéchisme aux enfants, il prenait tous les gosses, et les dames catéchistes ou les religieuses faisaient réciter. Et c'était l'époque où on apprenait par cœur. Ceci dit, c'est aussi l'époque où on apprenait par cœur à l'école primaire, hein. Donc, aujourd'hui, et depuis les années 50, les catéchistes sont de plus en plus pleinement responsables de leur job, avec des équipes, avec des formations, avec des indications de la part du curé, du diocèse, de l'équipe pastorale, des choix de méthodes qui ont été publiés par des gens compétents, etc. Mais vous voyez, il y a un monde fou qui pense le cathé. Ça va être pareil pour la liturgie. Ça va être pareil pour la préparation au mariage, etc. Alors, j'avais une petite question pas traitée. Quand décide-t-on, comment décide-t-on et quand une question est en cause qui nécessite un synode ou un concile et qui réunit le concile? Alors, dans l'histoire de l'Église, les conciles généraux ont été convoqués par le pape, par l'empereur au premier millénaire, par le pape au second millénaire, pour répondre à des questions effectivement importantes. Mais donc, il y a eu, au premier millénaire, c'était finalement l'autorité civile qui les a convoqués, et les conciles généraux, hein, et au second millénaire, ça a été le pape et l'autorité religieuse sous forme cléricale. En orthodoxie, il n'y a pas eu de concile panorthodoxe de tout le second millénaire. Il n'y avait plus d'empereur, ils n'ont pas su réunir de concile panorthodoxe, hein, ce que j'appelle panorthodoxe, c'est-à-dire de toutes les églises orthodoxes, de tout le second millénaire. Au troisième millénaire, Il y en a eu un réuni en 2016 qui a sans doute plutôt accéléré la séparation entre les orthodoxes alignés derrière Moscou et ceux alignés derrière Constantinople. Au niveau des synodes diocésains, ce sont les évêques qui décident de la convocation d'un synode. Là encore, suivant qu'ils sont doués pour le travail synodal, qu'ils consultent beaucoup ou qu'ils le sont moins, le travail préparatoire aura, et la nécessité de convoquer un synode aura été plus ou moins synodale. Il existe dans le droit canon une possibilité d'avoir des conciles régionaux. Le droit canon actuel est un droit qui date de 1983. Quelques conciles régionaux ont été convoqués depuis. Celui qui a le mieux marché, c'est celui des Philippines, qui ont vraiment permis à l'Église des Philippines, qui est, c'est une très grande église, hein, les Philippines, c'est un très grand pays, les Philippines, et majoritairement catholique, donc il y a beaucoup d'évêchés. Ça leur a permis de traiter de questions locales, en particulier des questions sur la pauvreté, sur la façon de l'aborder, etc., de façon extrêmement théologique et pastorale à la fois. Alors, je vais... On va bientôt s'arrêter. Donc, c'est notre dernière séance. Je n'ai pas fait court aujourd'hui, puisqu'on a échangé ces questions. J'avais prévu un cours sur la question de vivre en chrétien, en église, dans un monde pluriel. Ce cours sera en ligne ou l'est déjà, puisque je l'ai donné à Hélène en fin d'après-midi. Je crois qu'Hélène avait oublié de mettre en ligne le cours de la semaine précédente sur une sainte catholique apostolique, la partie polie. Elle avait mis en ligne la partie enregistrement. Donc, vous trouverez ça. Le cours du trimestre prochain sera donc assuré par Frère Isaiah, qui est moine de Lérins, moine cistercien, sur les sacrements. Et donc, c'est une autre façon d'aborder la vie en Église, une façon très sacerdotale de notre vie en Église, que vous allez vivre et qui va vous évoquer pendant tout le deuxième trimestre. J'espère que ce satané virus nous permettra d'avoir notre petite soirée de fin de parcours où nous essayons de vous réunir au mois de juin. On est malheureusement dépendant des conditions sanitaires. L'année dernière, on a réussi à se réunir, mais c'était une toute petite promotion. Il y a 2 ans, on a été obligé de le faire en Zoom, ce qui, quand même, pour une soirée de clôture, était un peu dommage.
Donc. Ben merci beaucoup pour ce cours. Merci.
Ben écoutez, merci de m'avoir écouté.
Merci. Merci à vous.
Merci Anne.
Merci Anne.
Merci à tous.
Merci.
Alors, merci à vous. Merci de votre réflexion. Ce qui m'intéresse beaucoup, mais vous passez par vos accompagnateurs de groupe, c'est les textes. C'est-à-dire, moi, mon rôle, c'est de fournir les textes aux accompagnateurs de groupe. Donc, faire remonter l'intérêt des textes que vous avez travaillés. Voilà. Également. Puis bien sûr, l'intérêt du cours. Hein. Éventuellement, ce qu'on garde, ce qu'on élimine, parce que ça s'accumule un peu.
Merci donc, beaucoup.
Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël.
Merci.
Bonne fête à vous aussi.
Bon Noël.
D'essayer d'arriver à accueillir le Sauveur qui vient parmi nous.
Bon Noël.
Et puis, bonne suite de parcours avec Isaïa, puis après avec Laurent Lemoine et à nouveau le Père Clazen. Voilà.
Merci, bonne fête.
Au revoir.
Merci.
Merci.
Bonne fête à tous.
Bonne fête.
Ouais. Bonne fête.
Au revoir, merci.
Bonne fête.